Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un Masque et la Plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les apôtres de la critique, j'ai nommé Daniel Eman, de Bande à Part, Nicolas Chalère de l'Obs, Pierrot, Pierre Murat de Télérama, et Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et du Mylène Farmer Club pour parler ce soir évidemment de Marie-Madeleine, mais également des films de Spielberg, de Gus Van Sant, de Chloé Zhao, de Jean Becker, de Serge Bozon et même, si on a le temps, des carnivores de Jérémy et Yannick Régnier. Dans le courrier de la semaine, si l'on accepte Vincent de Paris qui trouve que Make to My Love est un film sublime que j'ai regardé en état de transe, Roger Solomé qui tient le film pour la version non pas 94 mais 2018 du délicieux Pauline à la plage. Si l'on accepte Delphine de Paris qui a trouvé derrière ce tohu-bohu night clubesque beaucoup de profondeur, j'ai hâte de voir la suite. Ou encore Christophe qui trouve que le puissant film politique de Kechiche est comment ne pas voir que les beaux corps des femmes et des hommes dansent sur le volcan d'une fracture culturelle à venir qui nous conduit vers une société toujours plus tendue et de moins en moins ensoleillée. Eh bien, la majorité des auditeurs est très sévère. Pour le film de Kechiche, Jérôme Duvivier, le problème de ce film n'est pas l'ubris du lubrique Kechiche, mais la platitude des dialogues, plus proche de la télé-réalité que de Romère. Pour Emmanuel Dadoun, rarement vu une telle M, trois petits points, libidineuse et crypto-intello, un fantasme de réalisateur pas du tout intéressant et complètement apolitique. Pour Arnaud Taillard, c'est un film d'anthopodiste, tout y est fait avec les pieds. Le cadrage, la mise au point, le scénario, les dialogues et la place de la femme est abjecte. Toutes ne sont montrées que de façon sexuelle. Milav se demande quand M. Kechiche aura compris que on peut raconter une histoire souvent mieux en 1h30 de passion qu'en 3h d'ennui. Pour Catherine Sébillet, voici donc le film de télé-réalité adoré par vos critiques français. Le vide est magnifique. Pour avoir une note dissonante, il faut écouter les critiques étrangers. Pour Monsieur Magnon, scénario faible, trop long, ennuyeux. Pour Séveline Delix, qui est fan pourtant du cinéma de Kechiche, j'avoue que dans la forme, il me gêne de plus en plus et plus le temps passe, plus Kechiche me fait penser à Jean-Claude Brissot. J'en suis très triste. Barbara Morin, de 10, a été assommée par la banalité des dialogues. C'est plus belle la vie à 7. Philippe Coquillot pense qu'il aurait dû, Kechiche, intituler son film Amine et les filles, saison 1, en référence à Hélène et les garçons, tant ce film n'est qu'une sitcom télé-réalité en Jolivet et Arty. Allez, on va arrêter parce que j'en ai trop. Il y a Roselyne Bijaoui qui dit que le film de Kechiche ne traite que de lieux communs, de fesses, pour ne pas dire de cul, et c'est tout. Tu veux rien ajouter, j'imagine ?
C'est pas mal, la fesse et le cul.
Alors, deux messages pour finir importants. Philippe Gros me demande d'instituer une boîte à amender dans laquelle chaque intervenant qui utiliserait l'horripilant un espèce de, avec un complément du nom féminin, viendrait abonder de 1 ou 2 euros. Et je vous promets une fortune avant la fin 2018. Et enfin, Simon Liot me gronde sur un sujet qui est récurrent. Pierre, cher Jérôme Garcin, pourquoi empêchez-vous Pierre Murat de raconter la fin des films ? Pour ma part et pour beaucoup d'entre nous, l'intrigue est secondaire. Et comme quand on revoit un film en connaissant ses méandres, on s'en détache pour mieux apprécier les moyens du cinéma. Laissez donc faire Pierre Murat pour le bien commun. Voilà.
Bravo.
Oui, mais je vais avoir autant de lettres la
prochaine. Oui, j'imagine.
Pour me dire le contraire.
C'est gentil
donc, voilà.
De citer celle-là. Voilà.
Oui, bah, je la cite parce que tu es là aussi. Hein.
Voilà.
Marie Madeleine, le blockbuster biblique de l'Australien Garth Davis, que tu n'as pas vu, Pierre, ça je le dis
bah
avant.
Non, je le réserve pour un autre film.
C'est dommage, on aurait pu raconter la fin.
Qui retrace la vie de Marie Madeleine ou Marie de Magdala ou Marie la Magdalène, fille, si j'ose dire, de Chiqui Carillo et disciple de Jésus de Nazareth. Elle le suit jusqu'à ses derniers jours et assiste à sa résurrection avec Rooney Mara dans le rôle titre, Joaquin Phoenix en Jésus, Chiwewel Ejiofor en Pierre, enfin Pierre l'apôtre, hein, pas Murat.
Non.
Etta Raïm, coqueluche française d'Hollywood en Judas, une version ouvertement féministe des évangiles. Vous saviez ?
C'est moi qui commence en Marie-Madeleine. Parce que je ne l'ai pas vu.
Non, non, voilà. Mais bon, alors allons-y, Marie-Madeleine. Alors voilà, oui, effectivement, c'est une version dite féministe d'une histoire qu'on connaît un tout petit peu par cœur. Hein, il faut quand même dire les choses.
Pas tout le monde.
Hélas, voilà, et ben, je vais annoncer que Jésus finit mal sur la croix. Ou bien d'ailleurs, hein, c'est selon ses tendances sexuelles, il y en a qui apprécient, mais bon, il finit sur la croix. C'est un peu édulcoré.
Oh,
moi, j'attendais la lance qui lui transperce
les parents
flancs.
Sont là, ce soir.
J'attendais l'éponge baignée de vinaigre. Enfin, tous ces petits suppléments gratuits auxquels il a eu droit.
Il finit pas sur la croix, d'ailleurs, je te signale.
Mais enfin, voilà, alors justement. Donc, alors,
dimanche, je te rappelle.
Nous sommes en 2018. Il y a 2 ans, Marie-Madeleine a officiellement rejoint le rang des apôtres, dont elle avait été privée en 591 par le pape Grégoire, qui avait décidé d'en faire une prostituée. Donc, le cinéaste de Lyon, enfin, le metteur en image de Lyon, film...
Pas la ville de Lyon, du film Lyon.
De Lyon, le film Lyon, mais qui avait eu pas mal d'Oscars.
C'est pas Gérard Collomb.
S'attaque à cela en disant, moi, je vais réhabiliter Marie-Madeleine. Marie-Madeleine n'était pas une prostituée, comme on le dit depuis 2000 ans, ou en tout cas 1500 ans. Mais c'est une femme libre, c'est une femme qui s'affranchissait du droit de son père, Chiqui Carillo, extraordinaire comme toujours, de Minochet, son frère. Bon, il y a des fins de mois difficiles, visiblement. Donc voilà, c'était juste une femme qui avait décidé qu'elle pourrait vivre sans homme. Donc à cette époque-là, c'est une abomination. Donc là, voilà qui suit Jésus, tout le monde. Alors, je m'amusais à compter, je m'emmerdais tellement. Les apôtres, ils ne sont pas toujours tous là. Visiblement, il y avait RTT, enfin, il y avait. Ils venaient.
Ils ont des choses
pas,
à faire, quand même.
Bah, ouais, quand même. Ils ont la parole, alors, le monde des Oliviers, je crois qu'ils sont à peu près tous là, quand même. Et puis, il y a un problème, c'est qu'à un moment, c'est un film féministe. Bon, on a dit qu'effectivement, elle était libre, affranchie, refusant le pouvoir des hommes. Plus grand-chose à raconter, et puis plus beaucoup de nanas. C'est un peu quand même un film féministe sans femmes, quoi. Il y a Marie-Madeleine.
Ah bah, ils arrivent dans un village de femmes à un moment.
Mais voilà, c'est ça. Mais avec, ça qui est très drôle, c'est qu'à un moment, le scénario se croit obligé à un moment de ramener des femmes pour rien, avec Lubna Azabal qui arrive, genre, ah, salut, c'est gentil d'être venu, et tout ça. On ramène un peu de nanas comme ça au premier plan, mais c'est extrêmement mal écrit. Et quand même, le comble de ce film-là, c'est que le rôle le plus intéressant, malheureusement massacré par l'interprétation de Tara Raïm, qui est très très mauvais dans
Judas.
C'est Judas.
Oui, c'est-à-dire
qu'ils font de Judas un personnage perturbé.
Mais en revanche, j'ai trouvé Phoenix assez convaincant.
Phoenix est formidable.
Non.
Phoenix est très bon. Bah, parce qu'il est fou, il est possédé.
Oh non.
C'est ça, moi, j'ai rarement vu un Jésus aussi possédé, aussi au bord de la folie, et je trouvais que c'était une vision assez intéressante. Et ce qui est beau, c'est la manière dont il les filme. Les scènes entre les deux, entre Mara et Phoenix, sont souvent très bien. Je trouve qu'il arrive à capter vraiment, parce qu'on sait qu'ils sont ensemble dans la vie. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Oui. Il y a aussi un sous-entendu amoureux dans le film.
Ils sont ensemble dans la vie.
Mais oui, vous me demandez pour le people, je suis là.
C'est pour ça qu'on les retrouvera peut-être dans un autre film.
Dans un autre film, ils sont toujours ensemble. Mais oui, et c'est ce que le film. Plus que le suggère, en gros, Jésus, c'est Jésus et Marie-Madeleine, puisqu'elle lui aurait même suggéré en bonne partie son message, et que c'était la plus fidèle et la plus proche du message du Christ. Je rejoins à peu près Xavier sur... C'est pas un bon film, mais c'est un film qui a des qualités, et je m'attendais vraiment à un gros nanar, et je trouve pas que ce soit un gros nanar. C'est-à-dire qu'il y a... Déjà, il y a un talent de filmeur chez Garth Davis, qui avant, je trouvais le Lion était un film, j'avais l'impression que c'était Artus Bertrand qui filmait tout le temps avec des drones au-dessus de la nature, c'était un peu ridicule. Là, je trouve qu'il arrive à ancrer vraiment les personnages dans le décor. Il y a la manière dont il filme le désert, dont il filme tout ça. Je trouve quelque chose d'assez beau dans les corps et l'espace. Il y a quelque chose d'assez beau. Et je trouve que, et puis, des apôtres comme ça, qui on dirait une bande de hippies qui traverse chaque ville, de ville en ville, une bande de... Il y a quelque chose d'un peu, il y a une manière de, je vais pas dire désacraliser parce que ce serait un peu extrême, mais il y a une manière de filmer, assez 2018 effectivement, et c'est aussi l'opportunisme du film, c'est-à-dire que Saint-Pierre interprété par un acteur noir, Judas par Tara Raïm, ça c'est plus douteux sur la dimension un peu le côté traître du personnage, voilà, et c'est vrai que Tara Raïm peut-être le personnage le plus intéressant, et en même temps temps celui qui joue le moins bien.
Ah mais oui, il est quand même des petits regards ahuris sur les miracles de Jésus, c'est impressionnant quoi. C'est des bouches en cul de poule.
Avec, vous ne le dites pas quand même.
C'est extraordinaire, il a ressuscité Lazare. Oh, pas trop bien.
Mais
avec quand même des moyens pour un film évangélique. Des moyens un peu dispendieux, je trouve, quand même.
Oui, mais je suis pas sûr que ça ait coûté si cher. C'est surtout qu'il a un vrai sens du filmage. Non, je suis pas sûr que ça ait coûté si cher. Bon, voilà.
Je trouve
que pour Phénix et Mara, Nicolas, ça peut valoir le coup parce que dès qu'ils sont ensemble,
Daniel.
Il se passe quelque chose.
Oui, bah, Sœur Daniel. Oui, quand... bah oui, Sœur Daniel, quand même, c'est féministe, quand même. Voilà, Marie-Madeleine. Alors, effectivement, il y a une scène quand même étonnante. C'est Marie, la mère de Jésus, qui dit à Marie-Madeleine, oui, t'es amoureuse de lui, bon bah oui, bah lui aussi, enfin tout va bien, d'accord, j'ai pas lu les évangiles, et quand même ça me paraît un petit peu poussé quand même dans oui ces deux-là, bon, mais la Galilée je trouve est quand même dans son côté désertique et épuré et tout ce défilé de bures, les costumes totalement minéraux, je trouve que esthétiquement il y a quelque chose qui est tout à fait valable et je trouve pas que ce film soit méprisable comme il semblerait qu'on pense qu'il le.
Il y a des moments quand il découvre le village de lépreux avec voilà. Tous ces gens mourants. Enfin c'est pas complètement aseptisé non plus. Il y a une forme de. Je trouve que le film n'est pas inintéressant. Il y a vraiment
non.
Des moments.
Alors
comme ça,
effectivement même une vieille agnostique comme moi. C'est que Jésus a eu quand même un accident de parcours définitif à l'âge de 33 ans. Et notre grand Joaquin, qui en a quand même 10 de plus, est quand même un Jésus vintage.
Ça, c'est mesquin, ça, je trouve.
Non, c'est pas mesquin.
Attends, il marchait pieds nus dans le désert au soleil, ça burine quand même.
Oui, bah,
il
n'y
avait pas de crème à l'époque.
Oui, bah oui. Alors, moi,
il
n'a
pas fait de régime, lui. Hein,
non. Oh, non.
Oh, mais vous arrêtez, non, ça.
Non, non, mais je. Je trouve que pour...
jamais Pierre ne va aller voir ce film.
Un couple
Rooney
dans
Mara.
La vie.
Ils seraient pas ensemble, ceux-là.
Un couple dans la vie.
Don't Worry, le nouveau film de Gus Van Sant, Palme d'Or, je le rappelle, pour Elephant. Bah, depuis, c'est un peu plus, bon. Cette fois, Joaquin Phoenix, décidément abonné au biopic, quitte la défroque de Jésus, donc, pour celle de John Callahan, un dessinateur satirique qui a vraiment existé, hein, qui était alcoolique et qui est devenu tétraplégique à 21 ans, c'était au début des années 70, après un accident de voiture et pour qui le dessin, mais aussi les réunions d'alcooliques anonymes où Xavier va souvent, vont tenir lieu de thérapie provisoire. Je dis provisoire parce qu'il va quand même mourir à 59 ans. Alors on peut voir aussi dans ce film, ce que c'était mon cas, côté un peu rédempteur des passages christiques qui rapprochent Joaquin Phoenix du Jésus de Marie-Madeleine, puisqu'il y a des moments où il a les bras en croix même, on a le sentiment qu'on a quitté un film pour un plus proche. Alors celui-là, il fait 1h53, il est beaucoup plus court que le Marie-Madeleine. Pierre.
Tu parlais d'accident, il y en avait un qui avait connu un accident industriel à Cannes, c'est Gus Van Sant avec le film qui a été présenté il y a quelques années, sorti sous un titre a changé entre-temps, mais il a changé trois fois, qui s'appelait Nos Souvenirs, qui était quand même une catastrophe totale absolue. Alors là, on dirait qu'il est un peu en convalescence, il est pas très très bon encore, pas trop pas droit comme il a pu l'être dans les films que beaucoup ont aimé, moi moins que les autres, mais enfin c'est vrai qu'il avait du talent dans Elephant.
Il était un peu mou là quand même, un peu languissant.
Mais alors voilà, c'est-à-dire que c'est prudent, c'est surtout très très bête parce que le personnage principal, c'est pas tellement John Callahan qui est enfin je veux dire que même les dessins sont pas très bien utilisés, on sait pas très très bien si vraiment c'est l'insolent qu'il prétend être, c'est le gourou, le psy,
oui,
le
qui est bien.
Jonah Hill, qui est très bien. Jusqu'à présent, Jonah Hill, on l'avait vu comme un bon gros rondouillard un peu hystérique. Et là, il a une douceur, un magnétisme, une humanité. Et c'est vraiment lui, le personnage principal. Malheureusement, ce personnage principal, on lui fait dire quand même de grosses bêtises. Enfin, c'est-à-dire que il y a tout un périple que le héros Callahan doit faire. Alors, le sixième stade, c'est abandonné. Il faut que tu pardonnes à tout le monde. Alors, on voit le malheureux.
C'est pour ça que j'ai pensé souvent aussi à Marie-Madeleine.
Oui, oui, voilà. Non, mais attends. Ben il va voir et je te pardonne. Il faut que tu pardonnes à ta maman qui t'a abandonné. Il pardonne. Et puis, le stade suprême, c'est pardonne-toi à toi-même. Ah, il n'y avait pas pensé tout seul, Joaquin Phoenix. Donc, il se pardonne à lui-même. Tout ça devient une bouillie pour les chats, philosophique, New Age, enfin, sans absolument aucun intérêt. Donc, finalement, c'est un film d'1h50 qui paraît quand même très, très, très long, oui, avec Rooney Mara, qui est une sorte d'ange, comme ça, qui apparaît de temps à autre, qui joue une hôtesse de l'air suédoise. On se demande si c'est un fantasme ou pas, d'ailleurs, par moment.
Moi, j'ai cru qu'elle n'existait pas.
Oui, oui, moi aussi, j'ai cru que c'était ça. Malheureusement, je crois qu'elle existe. Et tout ça est quand même extrêmement bête. Voilà.
Daniela.
Oui, mais alors, j'ai été saisie en voyant ce film. Enfin, quand il tombe pour la deuxième fois de son fauteuil roulant, j'ai crié quand même. Non, pas une troisième fois, s'il te plaît. Et effectivement, de voir à deux jours...
Il a mis beaucoup de temps à apprendre à l'utiliser.
Ah oui, il a beaucoup répété, et puis il va très vite avec son fauteuil roulant. Voilà. mais j'ai été prise d'une nostalgie des films précédents, très précédents, de Gus Van Sant, Hunting, les fans, bon. Et puis une nostalgie encore plus grande de Joaquin Phoenix. Du Joaquin Phoenix, évidemment, de The Yards, de Two Lovers, de son travail avec James Gray, et de cette grâce absolue qu'était cet acteur, et qui maintenant, entre effectivement Jésus et le tétraplégique, collectionne les rôles à Oscar, et tout à coup, j'ai été...
Tu penses que ça...
Oui, le tétraplégique, Oscars, en général, ça peut marcher, si j'ose dire.
Tétraplégique et alcoolique.
Théoriquement, c'est une nomination à l'Oscar.
C'est tétraplégique.
Nicolas.
Non, mais moi, j'allais dire que Joaquin Phoenix, c'est un peu ce qui me fait aussi avec les acteurs, ce qui me fait supporter le film sur sa durée. Moi, je trouve que c'est vraiment le film qui illustre bien la schizophrénie de Gus Van Sant aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a commencé quand même dans un cinéma de la contre-culture assez avant-gardiste, qui a réussi à s'adapter à des projets beaucoup plus classiques, des films comme Will Hunting ou Promised Land, où il était dans un cinéma plus balisé, plus classique, et où il amenait en même temps sa patte, mais il arrivait à s'y fondre. Enfin, c'était des bons films parce qu'il arrivait à mélanger les deux. Et là, je trouve qu'il est dans une espèce d'impasse où il essaye, dans un même film, de passer de l'un à l'autre. Alors, on a une scène un peu larmoyante avec une musique sirupeuse. Et puis, on a l'impression que derrière, il veut se rattraper. Donc, il fait une scène un peu, avec un montage un peu déstructuré. Il change de ton tout le temps.
On ne sait pas
où il est dans ce film, Gus Van Sant. Il ne sait pas où il se trouve. Je trouve ça dommage parce que le personnage de Callahan est vraiment un personnage passionnant, qui est vraiment une figure de la contre-culture de Portland, Oregon, la ville natale de Van Sant, puisque Van Sant a toujours un peu raconté l'univers artistique de sa ville natale. Et quand on sait que c'est un projet qui date d'il y a à peu près une vingtaine d'années, que c'était Robin Williams qui l'avait sensibilisé au parcours de ce type, et que c'était Robin Williams qui devait le jouer, bon, voilà, je trouve j'ai l'impression que c'est une espèce de... Une espèce de projet. Non, j'ai dit une.
Tu t'es rattrapé.
Que c'est un projet qui traîne depuis longtemps, qu'il a ressorti pour essayer de se remettre en selle, et qu'il est pas vraiment sur le. Bon. Qu'il est pas il y a un vrai problème de point de vue et de tonalité dans ce film qui fait que il sait pas trop où on est, et nous non plus.
Xavier.
On avait adoré Milk, qui était aussi un biopic, une biographie, mais une biographie interdite. J'affirme, j'assume, j'aime Mylène Farmer et j'aime Milk. C'est pas grave, j'ai le droit de vivre quand même.
Et Bob l'éponge.
Mais il y avait dans Milk une biographie inventée, puisqu'une biographie interdite, puisqu'une biographie secrète, puisqu'une biographie mise au grand jour, mais avait un vrai mouvement, donc il y avait la possibilité d'écrire des personnages. Là, on a un type sur un fauteuil roulant, donc il y a moins de personnages autour, obligatoirement, ou alors il faut qu'il rentre dans le cadre. Donc on a la petite copine, Rooney Mara, qui ne sert pas à grand-chose. On a Jonah Hill, qui est très bien, effectivement, en super gay quand même. Parfois pas tout à fait dans la nuance, mais le personnage existe, mais bien sûr qu'il a le droit. Mais ça ne raconte rien, et on sent bien d'ailleurs que comme c'est le livre autobiographique de Callahan, il est un peu circonscrit, le scénario, il doit rester dans ses rails-là, j'allais dire, il peut pas être en roue libre, là c'est très mauvais goût quand même. ouais, je sais, c'est pas bien, c'est pas du tout politiquement correct. Non, donc il essaye de diffracter cela entre à la fois le quotidien de ce type-là, la manière dont il utilisera tout cela pour nourrir ses dessins et pour nourrir ce grand discours qu'il fait régulièrement et qui ponctue le film dans une salle qui lui est complètement, acquise à sa cause. Mais ça n'apporte rien, non. Ça n'aère pas le scénario, ça n'empêche pas la lourdeur, le côté démonstratif. Et puis le gros problème, c'est Joaquin Phoenix. C'est plus l'acteur studio, c'est l'acteur studieux, quoi. C'est-à-dire qu'il explique partout qu'il a lu toutes les biographies, qu'il a même surligné des passages. C'est quand même génial. Joaquin Phoenix, il a surligné des passages de la biographie de Callahan. Oh, comme c'est trop mignon et tout ça. Il a écouté des entretiens que Gus Van Sant avait fait. Oh, bah, c'est très, très bien. Mais il est dans le mimétisme. Ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment.
Mais les dessins sont formidables. Moi, ça me donne envie d'aller plonger dans l'œuvre de Callahan, qui est un peu dans la
ligne. Même pas, tu vois.
On les voit, c'est un rôle à Oscar. Et il l'a pas en plus. C'est injuste. C'est dégueulasse. Il fait un serial killer qui a des problèmes mentaux et qui pleure parce qu'une petite fille a été tuée à cause du sneakers qu'il lui avait donné dans le Lynn Ramsey. Il fait Jésus-Christ. Et il fait un tétraplégique alcoolo. Merde, hétéro. Et le mec était gay. Je peux dire qu'il avait l'Oscar tout de suite.
Oh. Mais enfin, heureusement qu'il est là pour.
Et tu verras que c'est John Hill.
C'est donc le nouveau film de Gus.
Il manque un truc. Hein.
Sant, don't worry. Pas de réaction sur ce film. Allez, 2 mois et demi après, Pentagon Papers, l'insatiable et plus geek que jamais, Steven Spielberg, 71 ans, est déjà de retour avec Ready Player One, un film de science-fiction de 2h20. Tu l'as vu celui-là, Pierre ?
Mais oui.
Avec notamment Ty Sheridan, Olivia Cook. Bah oui, en salle, tu l'as pas lu dans la frigidaire.
Non, mais...
oui,
enfin,
Olivia, Olivia
avec
Cook.
Avec la foule.
Oh, ah, ouais. Oh non, commence pas. Commence pas.
Et le truc là qu'il mange, le popcorn, c'est
yes, il y avait du popcorn.
Goodness.
Avec Olivia Cooke, oui. Ben Mendelsohn, Mark Rylance, ça se passe en 2045 dans un monde ravagé par les guerres, la misère, la famille et le changement climatique. Un monde où existe une société virtuelle, l'Oasis, qui était à l'origine un jeu de rôle imaginé par James Halliday. Alors si Halliday est mort...
Il y a des problèmes d'héritage aussi.
Si Halliday est mort, ça, évidemment, on commence à le savoir. Il a laissé une vidéo dans laquelle il diléguait son immense fortune, 500 milliards de dollars, non pas à Laetitia, mais à la personne qui réussira à trouver un œuf de Pâques caché dans l'Oasis.
Et 3 clés aussi.
Et 3 clés. Absolument, 3 clés. Mais j'ai laissé de toutes les manières Pierre raconter la fin. Un orphelin de 17 ans, Wade Watts, qui est à Sheridan, va tout faire avec son avatar Parsival pour le trouver. Du coup, il va devenir la cible d'un géant de l'industrie informatique et de son patron, qui est Mendelsohn. Mélange de Kubrick et de Steve Jobs. Daniel, apparemment, tu as marché ?
Ah bah, j'ai marché épuisé, parce qu'on sort absolument épuisé de ce grand 8. Une ode survoltée.
Grand 8 numérique.
Numérique, une ode survoltée à la pop culture des années 80, des citations, des collisions, on rencontre Godzilla, Jurassic Park, voilà le T-Rex, donc auto-célébration, auto-citation. Et au milieu de ça, c'est vrai que ce petit héros orphelin, déterminé et timide, qui est tellement spielbergien.
Oui, c'est entre Dickens et Spielberg. Hein.
Voilà, et tout à coup, il y a des moments magiques. Cette séquence tout à coup magique de Shining, de Kubrick, au milieu de ce désordre infernal de ces prouesses numériques, et encore, et encore, et encore. Et tout à coup, il y a cette séquence magique, ludique et fervente, qui est un hommage à Kubrick avec la scène clé de Shining. Alors, on est à la fois, moi, on fait allusion à des jeux vidéo que j'en ai jamais entendu parler. Je suis pas vraiment geek. Et donc, on sort de là épuisé et en même temps, à la fin, est délivré un message d'une simplicité presque impressionnante. Seule la réalité est réelle. Ah ouais? Et puis, tout à coup, on s'aperçoit que c'est plus profond qu'il y paraît et que toutes ces prouesses numériques pendant plus de 2 heures n'ont été là que pour dénoncer le danger du virtuel sur le réel.
Est-ce et que c'est vraiment neuf, ça, Daniel?
Oui, mais je trouve que ça apaise ce film qui vous donne la migraine. Ça l'apaise. On revient à des sentiments tellement normaux et humains que voilà, tout à coup, on se dit, ben, le vieux, quand même, il en a encore sous le capot.
Ouais. Nicolas.
Non, mais moi j'étais très excité par ce film, mais j'en ressors très partagé, donc déçu. C'est-à-dire que ça montre à la fois le brio de Spielberg, c'est-à-dire qu'en termes de mise en scène, il arrive après, on a vu les films de Luc Besson, on a vu beaucoup de films sur soit la réalité virtuelle, soit ces espèces de dystopies de science-fiction. Et lui, il arrive et puis il vous dit voilà, je fais mieux que vous. Il prend plein de scènes qu'on a déjà vues, il les refait beaucoup mieux. Sauf qu'après, derrière, il faudra un scénario et un propos un peu tenu et un peu cohérent.
Oui. Et le point et un peu neuf.
Et un peu neuf. Et surtout, c'est qu'au bout d'un mois, à la moitié du film, je me dis, bon, ça va être pas forcément dans la lignée de Minority Report parce que c'est un film beaucoup plus popcorn, mais on va à un moment retourner dans le réel et on va confronter les deux et il va y avoir quelque chose d'assez fort et d'incarné. Le vrai problème, c'est que le film prône une forme de retour au réel, effectivement, ou en tout cas un simili arrangement entre les deux, je vais pas révéler la fin, mais et ne fait que sortir l'artillerie numérique. Et moi, à un moment, j'ai un problème de personnage, un problème d'incarnation, et je ne suis pas, je ne suis pas un grand amateur de jeux vidéo, mais à un moment, si on cherche le joystick pour pouvoir rentrer dans le film, il y a un vrai problème. Après, à côté de ça, je trouve que tout ce qui est sur la pop culture, on en parle beaucoup. Effectivement, il y a quand même un côté, on donne aux geeks ce qu'ils attendent, alors on leur met un petit T-Rex Paralysie, la musique, honnêtement, le choix des musiques, c'est quand même des choses très revues et archivues, c'est-à-dire qu'on a envie qu'il y ait un peu plus d'audace aussi dans les références pop culturelles. Donc, je suis à la fois, je suis déçu parce que c'est pas, effectivement, Shining reste parce que Shining, c'est incarné parce que la manière dont il revisite plein de parties du moment du film. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une roublardise de Spielberg dans ce film qui ressort et qui m'embête et que je trouve ça dommage parce que ça aurait pu être un très beau film.
Mon journal unanime du plus jeune au plus mûr.
Très très élogieux. Dans
c'était un enthousiasme total. Mais je suis allé en salle pour le rattraper et je suis un peu comme vous tous, c'est-à-dire que moi je suis trop vieux pour ces conneries probablement et je pense que c'est aussi. Je suis trop vieux pour accepter que sur 2h20 il y ait 1h10 de double numérique. C'est-à-dire que je préférais rester avec Ty Sheridan et elle s'appelle Olivia Cook, mais qui sont charmants, j'aimerais bien les voir évoluer et tout. Et là j'ai affaire pendant 1h10, 1h15 sur 2h20 à des doubles numériques. Alors Kubrick, c'est un très 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 bon moment et je me disais simplement pendant tout le film parce que je m'ennuyais un peu.
2h20.
Je m'ennuyais, mais je disais, heureusement que les effets spéciaux n'étaient pas aussi performants quand il y a 25 ans ou 30 ans, il faisait Indiana Jones. Parce que je pense que s'il faisait Indiana Jones maintenant, il y aurait Harrison Ford pendant une heure et il serait remplacé, et Sean Connery dans le troisième épisode serait remplacé par des doubles. Alors, la morale de l'histoire, comme disait Daniel, oui, mais elle est un peu hypocrite. Il nous dit, vive la réalité.
Seule la réalité est réelle.
La réalité est réelle. Et en plus, en effet, tout ce qui est virtuel peut être dangereux. Et il fait un film qui prouve exactement le contraire. C'est-à-dire que vive le virtuel et il n'y a que le virtuel qui l'emporte sur la réalité. C'est un film assez hypocrite.
Qu'on m'explique comment on peut tourner autant de films en si peu de temps.
Alors cela dit, évidemment que c'est très bien fait. C'est vrai que c'est très très
bien l'industrie.
C'est de l'industrie.
C'est vraiment de la création. Xavier.
Alors tu sais que Indiana Jones revient. Il y a un 5.
Oui.
Qu'il va tourner en 2019. Il y a déjà une date de sortie, c'est le 8 juillet 2019. Non. Oui, absolument. Mais
est-ce que tu es déjà au courant que ça sera, il y aura aussi du.
Je ne sais pas. Le titre, ils hésitent entre le déambulateur maléfique et le fauteuil roulant pourri. Mais, t'imagines, Indiana Jones, le pauvre. Enfin bon, on n'a pas le droit de faire ça à Harrison Ford. Ou si d'ailleurs. Mais je suis complètement comme vous, c'est-à-dire que alors on voit bien qu'il est effectivement rattrapé par la nouvelle vague. Il y a J.J. Abrams, il y a les frères Duffer qui font Stranger Things, qui nous vouent un culte absolu à Steven Spielberg, qui emprunte à son univers des choses, mais qui le transforme, qui le font à leur image. Et là, il a envie de dire, attendez, quand même, le taulier, c'est moi qui ai tout inventé. Donc, je vais reprendre les rênes et vous allez voir quand même ce que papy sait encore faire. Alors effectivement, il en fait de manière virtuose, mais dans une esbouffe totalement inutile la plupart du temps. Enfin, je veux dire, il y a un moment, je suis d'accord avec toi, c'est que du numérique, donc on peut tout inventer, mais il y a.
Non, mais le numérique peut être beau.
Il refait Tron.
C'est que là,
au
les
début.
Personnages, à un moment, on a l'impression d'être dans les Minimoy. Enfin,
il refait Tron quand même au début. On a déjà vu
beau,
ça plonger dans
le meilleur goût.
Alors après, moi, il y a deux choses que je n'aime pas dans le film. C'est d'abord, à un moment, il remplace New Order par les Bee Gees, et ça, on n'a pas le droit. Non, mais je veux dire,
c'est aussi les références sont tellement galvaudées.
Et c'est un hommage à Fort Boyard quand même.
Oui, mais ça peut être oublié.
Si, c'est un hommage à Fourat.
Avant
Fourat, il y avait Indiana Jones. Mais bien sûr que si, Albert Fourat, qui donne des indices roulés comme dans Fort Boyard, pour avoir des clés. Tu ne regardes pas Fort Boyard.
Tout à fait d'accord.
Moi, j'attendais Tigra, tu sais, avec la tête de nez.
C'est bien Fort Boyard.
Et c'est là où on s'aperçoit qu'il n'a pas d'humour.
Fort Boyard avec Spielberg derrière. Non, mais ce qui est intéressant, après, le James Hadley, on voit que c'est un double.
Attendez, d'abord, vous vous calmez. On n'est pas là pour parler de Fort Boyard. On n'est pas là pour parler de.
C'est dans le film. C'est dans le film.
Non, mais après, ce qui est un peu touchant, c'est qu'effectivement, dans Hallyday, il y a Spielberg.
On a d'autres films, s'il vous plaît. On va pas passer la soirée.
La morale, elle est benette, mais quand très souvent, chez Spielberg.
Là, c'est Ready Player One, le nouveau film de Spielberg. Est-ce qu'il y a des réactions? Monsieur, bonsoir.
Vous n'êtes pas un petit peu blasé en termes d'effets spéciaux? Parce que, personnellement, la course du début, j'ai jamais vu ça.
Oui, mais au début, moi, j'ai parlé de la première...
Attendez, on va se calmer, Nicolas.
Surtout le fait qu'il joue en deux temps, il ne cherche pas à faire un plan séquence d'une seule traite. En termes de montage, j'ai été revoir le film pour compter le nombre de plans dans la scène de course. Il y a 30 plans dans cette course, il n'y en a pas un en trop. C'est monstrueux. Et ensuite, le fait qu'il la joue dans un deuxième temps, où cette fois, le gamin pour être obligé d'avancer
Pas la solution de l'énigme.
Mais si, il est obligé de devenir spectateur de cette course pour avancer.
Ouais.
Donc déjà, ça, comme idée, c'est pas si mal que ça. Comme idée, même les autres clés, bon, je vais pas raconter la fin. Après, le gros problème.
Il a raison.
Mais calmez-vous.
En termes de technique, en termes de. Même théoriquement, c'est un film qui est absolument passionnant. Le problème, c'est que c'est un film qui n'existe que par rapport au reste de la filmographie de Spielberg. On repense à Arrête-moi si tu peux, le gamin qui devient avocat juste parce qu'il regarde des séries. Voilà, il apprend absolument tout ça. On repense à tous les films qu'il a fait avant. Le problème, c'est que c'est pas un film qui existe tout seul. C'est ça le problème. Émotionnellement, c'est pas David Lean. On est quand même d'accord. Il y a quand même un gros problème par rapport à ça. Et surtout, le gros problème du film, et ça personne n'en parle, c'est quand même la romance entre les deux gamins qui n'existe pas.
Bah, c'est bien ça. Je parlais de problème d'incarnation et d'écriture sur la deuxième partie du film. C'est ça que j'essaie de résumer assez rapidement. C'est vraiment ça.
Ah, c'est vraiment ça. Il y a quand même un gros problème. S'il y a quand même un ancrage émotionnel qu'on peut avoir dans le film, que n'importe quel spectateur qui ne connaît aucune référence du film peut avoir, c'est bien la relation entre ces deux gamins et elle n'existe pas. Donc voilà, c'est le problème. Et bah, la fin, faut pas la raconter, mais quand même, la fin, c'est un tract. C'est un tract, voilà, le réel, c'est mieux que le virtuel.
Un peu problématique.
Non, on va pas en dire plus, mais quand même, la fin de Patagon Paper, c'était la même chose. La fin de Patagon Paper, c'était la même chose, c'était un tract.
Merci.
Le film entier était un tract.
Intervention, rien d'autre sur le Spielberg. On passe au film de Serge Boson, juste après Eva de Benoît Jacquot et La caméra de Claire de Hong Sang-soo. Revoici Isabelle Huppert, alias Madame Jekyll, dans Madame Hyde de Serge Boson. Cette fois, elle est mariée à José Garcia, qui est un homme au foyer. Elle enseigne la physique dans un lycée professionnel dont le proviseur sentencieux est Romain Duris, et où elle se fait chaque jour chahuter par ses élèves et aussi par ses collègues, jusqu'au jour où, après une expérience de laboratoire, elle est frappée par la foudre et elle est tout d'un coup dotée, comme Daniel, de pouvoirs électrisants. Elle se transforme la nuit en créature quasi pyrotechnique. Madame Hyde, vous l'avez compris, est lointainement inspirée par le roman de Stevenson, L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. Une presse très très élogieuse, je ne m'attendais pas à ce point-là. Pour ce film, est-ce que Xavier, tu partages ce sentiment?
Oui, j'aime bien le film.
Oui,
je ne suis pas sûr d'avoir
avec les yeux tout compris de Madame Hyde.
Non, mais c'est vrai. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, les tenants, les aboutissants. Je comprends globalement l'histoire, mais je ne déteste pas la manière dont Axel Roper au scénario et Serge Boson à la mise en scène me perdent dans ce labyrinthe un peu étrange qui multiplie les genres, à la fois l'horrifique, à la fois le conte moral, à la fois l'éducation sentimentale, le social, bien évidemment, sur le déterminisme, avec le personnage de Malik, qui est remarquablement interprété quand même par un jeune acteur qui s'appelle Ada Senani et qui a vraiment du carré, vraiment de la nuance, de la complexité. Alors il y a des cages de Faraday, il y a des métaphores. Les scènes les plus bouleversantes sont presque les moments où justement Madame Hyde donne des cours de physique à ce gamin.
Je trouve qu'on fait un bon rattrapage pour le coup de quand on a raté un tout petit peu les cours de sciences physiques.
Il y a une scène formidable où elle lui explique effectivement comment calculer sans justement le calculer et uniquement en regardant le graphisme. Au contraire, c'est très beau, c'est très et ça n'est qu'un cours de physique et il se passe vraiment quelque chose de l'ordre de l'éducation, de la séduction. Voilà, c'est plein de scènes comme ça, un peu insolentes, un peu insolites, un peu étranges. Il y a vraiment quelque chose. Ça rejoint le film de super-héros à un moment qu'elle dénonce au début, puisqu'il parle de Spider-Man en classe. Elle leur dit, mais vous ne comprenez rien, les super-héros, ça alimente votre paresse intellectuelle et tout ça. Et elle devient elle-même une créature en forme de super-héros avec des super-pouvoirs qui pour une première partie en tout cas, essaye de faire le bien et de rendre une certaine justice. C'est un film qui effectivement déroute incessamment, mais c'est tellement agréable dans un ensemble de cinéma qui est quand même souvent très normé, très cadré, très calculé.
Non, on va parler après du collier rouge.
Oui, voilà, par exemple, que moi je me laisse prendre. Il y a des idées de mise en scène, la manière dont il l'habille.
Romain Duris, c'est formidable. On a pas mal de films à voir. Bon. Je voudrais qu'on soit pas trop long sur chaque film.
Il y a pas beaucoup d'idées de mise en scène. Voilà, je trouve que c'est un scénario qui tient la route pendant 20-25 minutes parce que sur les scènes de classe que tu as dites, quand elle fait ses cours, bon, tout ça est plutôt étrange. Et ensuite, il veut faire un peu le malin, il veut faire l'intéressant, comme on disait, et il écrit un scénario et une histoire qui le dépasse un peu parce qu'il sait pas où elle va et il la domine pas du tout. Alors oui, il y a un étudiant qui est là et qui boite plus vraiment, puis qui guérit, puis on sait pas ce qu'il fait exactement. Puis Isabelle Huppert qui devient incandescente.
Moi j'ai un problème, c'est qu'il n'arrive plus à savoir qui est Isabelle Huppert. Là,
si je peux me permettre.
Il y a tellement de films.
Si je peux me permettre que là, elle est vraiment pas bonne. Elle a obtenu le prix d'interprétation au Festival de Locarno pour ça. Mais quand elle joue Madame Jekyll, elle en fait trois fois trop. Et quand elle joue l'incandescente, elle fait rien. Forcément, puisqu'on la voit pas, et donc elle est pas très bonne. Non, mais je trouve que c'est
un film. Et quand elle joue Eva, elle n'est pas non plus très convaincante.
Pour d'autres raisons. Il me semble qu'il pète un peu toujours plus haut que son cul, quoi.
C'est joliment dit.
Mais
c'est
joliment dit. Il essaye des choses, Pierre.
Mais il essaie des choses, mais il les réussit pas. Ça fait quand même le 5 ou 6 films.
Je trouve que la presse est un tout petit peu.
Et qui est pas si original que ça, en définitive.
Pas vrai, la France est
magnifique. Moi, j'ai pensé un peu à Rivette, un peu. Il y a le cinéma de Rivette aussi qui est là, fantastique.
Mais réaliste.
Oui, d'accord, oui, mais Rivette, à ce moment-là, quand il réussissait ses films, il les réussissait diablement mieux que Serge Bozon. Voilà.
Daniel.
Alors, je pense que ce film n'est absolument pas raté, mais moi, j'ai raté ce film. C'est-à-dire que, franchement, tout est tellement appuyé. Oh, mon Dieu, elle est torturée par ses élèves. Oh, les sales petits...
C'est très manichéen.
Oh, les sales petits crétins de banlieue. Oh, les sales petits mômes des cités. Oh, ils sont pas gentils. Et elle, quand même, elle est courageuse. Bon, alors ça, c'est
mais
la première...
Mais même les collègues sont pas gentils.
Ils sont pas gentils. Bon, très bien. Bon, elle est foudroyée. Alors, effectivement, on passe dans le fantastique, dans l'étrange... Et là, le film bascule sans but. On se dit, oui, elle a besoin de transmettre. Elle nous construit une cage de Faraday. On sait maintenant comment ça se fait, une cage de Faraday. Je m'en fous, moi. Je m'en fous de ne pas savoir comment ça se construit.
Ça nous sauve de la foudre, Madame Eman, la cage
oui,
de Faraday.
Ah, bah oui, c'est
alors,
ça.
Et il y a un peu de reconnaissance, quand
non,
même, pour
aucune.
Les
et là-dessus, on se dit, effectivement, elle a des gens qu'elle a essayé de protéger, ce jeune handicapé, donc elle va l'aider. Non. Ses pouvoirs exceptionnels, au lieu, effectivement, d'essayer de se remettre dans sa mission qu'elle ne peut pas accomplir d'enseignante, remarquable qu'elle est, elle devient une sorte de monstre phosphorescent, anti-héros. Pas du tout. Elle punit. Non, donc le propos même du film m'est devenu totalement opaque. Et à un moment donné, je m'en fous de ce film. Regardons Isabelle Huppert. Bah ouais, bien sûr, comme d'hab, elle est parfaite. Non, mais voilà.
Je tenais qu'il n'ait pas prise dans Marie-Madeleine.
Mais non, mais c'est ça, oui. Je veux dire, mais voilà, mais tu sais, il y a cette rivière, l'expression, elle pourrait lire le bottin. Bah oui, elle peut tout faire.
Oui, mais
voilà.
Quand elle le lit quatre fois de suite en trois mois,
moi,
Nicolas.
Moi, je l'ai raté au sens premier du terme, je n'ai pas vu.
C'est donc Madame Hyde de Serge Bozon. Des réactions peut-être sur ce film ou sur Isabelle Huppert? Non. Eh bien, on passe au Collier Rouge. C'est d'abord un roman de Jean-Christophe Ruffin, paru chez Gallimard, pour lequel, dans mon souvenir, le masque littéraire n'avait pas été très tendre, et c'est un euphémisme. L'histoire d'un poilu qui fut emprisonné en 1919 pour avoir voulu, mais évidemment, je n'en dis pas plus, puisque c'était l'épilogue du roman.
Je ne vais pas le dire.
Et que tout le monde n'a pas forcément lu le livre de Ruffin. C'est Jean Becker, Les Enfants du Marais, Dialogue avec mon jardinier, qui au moins a, pour lui, d'être persévérant, puisqu'il a 84 ans aujourd'hui, qui adapte brièvement, 1h23, le roman avec Nicolas Duvauchel dans le rôle du soldat Morlac, accusé d'avoir offensé le drapeau français pour une raison que je ne dirai pas, et François Cluzet dans le rôle du juge, le commandant Lantier, chargé d'instruire l'affaire, et évidemment pour Daniel, un chien qui est engagé pour hurler à la mort devant la prison où son maître est enfermée. L'image est très léchée, donc elle est signée Evangelo. Et c'est Le Collier Rouge. Xavier ?
Ah, c'est toujours à moi de commencer sur les mauvais films. Il y en a marre quand même.
Moi, je peux commencer.
On va gagner du temps. Non, mais en plus, je suis méchant, c'est même pas mauvais, mais c'est non, pas grand-chose. Voilà, c'est une toute petite mise en image du roman de Ruffin qui était déjà pas non plus grand-chose. voilà, alors c'est plein de bons sentiments.
Il vient bien, je vais pas en dire du mal.
Ah ben là, j'en dis pas de mal, tu me connais. Je peux vraiment faire.
Ah, tu le vends bien.
Après, moi, je suis totalement redingue de François Cluzet, que je trouve toujours intéressant et qui, bon, là, ne trouve pas son meilleur rôle, mais arrive à rescaper quand même deux, trois moments d'intimité avec Nicolas Duvauchel et Sophie Verbeck, qui est absolument magnifique, qui est très bien.
Qui joue le rôle de la femme.
Voilà, de la femme de Nicolas Duvauchel.
Voilà, que lui ne veut plus
après,
voir.
Après, voilà, le dévouement, voire la dévotion du chien qui hurle à la mort devant la prison. Bon, voilà, il faut aimer les chiens, ce qui n'est pas mon cas, Dieu merci. Donc, évidemment, je suis un peu moins touché. Il y a quand même un sentiment.
Ça aurait été un chat qui hurlait à la mort, t'aurais aimé.
Ah, j'aurais adoré, bien sûr. bon, ben voilà, c'est un livre d'image. Il y a un problème sur la fin qui est bâclé. C'est-à-dire qu'elle est exécutée en 10 minutes, alors qu'il faudra encore une bonne demi-heure pour lui donner un peu d'étoffe dramatique. Bon, ah, on est content que ce soit court.
Bah oui, non, ça dure 1h25, c'est bien.
Mais le problème, c'est qu'il y a des plans qui manquent, Pierre, quand même. Bah, il y a des moments où.
Il y a plein de choses qui manquent.
Mais ceci, mis à part, les gens qui ont envie d'aller voir ce film ne seront pas nécessairement déçus. Voilà.
Non, mais c'est ce qui est beau avec Becker, d'une certaine manière, c'est qu'on a l'impression de remonter dans le temps à une époque où on découvrait le cinématographe, où un changement de plan nous émerveillait, de voir des acteurs parler, entendre leur voix, était comme ça quelque chose de magique.
Et c'est moi qui suis méchant.
Non, mais du coup, et là, on entend même un chien aboyer, alors là, summum du progrès. Et du coup, alors moi, honnêtement, avec tous les films qu'on voit, les films surchargés, un peu trop cyniques, un peu trop. Ce film m'a fait un film sans Isabelle Huppert, déjà, aussi. tout ça m'a fait quand même une. J'ai trouvé ça. Il y a des acteurs qui sont bien dans leur rôle, qui font bien leur job, les dialogues sont soignés.
Les scènes de guerre des poilus.
Alors voilà, les flashbacks arrivent au moment où on parle des flashbacks pour bien comprendre que c'est le flashback. Bon, c'est un peu, passons pas à côté des choses simples, il y a comme ça quelque chose d'assez.
Ah non, mais c'est pour Carte Vermeille, on est d'accord.
Qu'on aurait pu faire aujourd'hui, et en même temps, c'est vrai que c'est pas non plus détestable, quoi.
Non, c'est.
Non, c'est pas détestable.
Daniel,
non, c'est. Voilà.
Le chien est bien.
Voilà le chien.
Laisse-moi parler du chien après. Non, c'est presque émouvant d'être éperdu de fidélité. Voilà, c'est le livre.
Tu parles de Becker ?
Oui, de Becker. Éperdu de fidélité au livre. Donc, effectivement, tout le récit, le suspense de qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour offenser le drapeau français. Donc, le suspense. Et puis, ce qui est terrible, c'est évidemment qu'il y a une répétition, une sorte de mouvement perpétuel des scènes. Il est dans sa prison, il y a le juge qui vient le voir, le chien est devant et il aboie. Et alors, pourquoi ce chien aboie ? Et il y en a marre que ce chien aboie, mais pourquoi aboie-t-il ? Parce que son maître est en prison, mais le juge militaire va venir l'interroger. Mais donc, il a fait quelque chose, mais qu'a-t-il fait ? Mais on va le revoir en prison. Et pourquoi ? Et alors, le chien aboie. Mais pourquoi aboie-t-il ? Parce que son maître est en prison.
Après, on va rentrer à la maison tranquillement. On va prendre un bus.
Ça a l'air vertigineux, dit comme ça, quand même.
Mais voilà, il y a presque du rythme dans la manière dont tu le résumes, alors que
c'est pas du tout le film.
Donc, au bout d'un moment, effectivement, je me suis attachée au chien. Il est bien, le chien.
Pierrot ?
Non mais vous avez dit, voilà c'est ça, c'est un film, dès les premières séquences où on voit le méchant gardien dire « Pourquoi tu aboies, sale cabot ?» etc. Et puis on voit la voiture très neuve, enfin je veux dire très de Cluzet arriver, on se dit « Ben voilà, c'est un film comme on en faisait il y a 30 ans, je pense que c'est un film comme on en fera encore dans 30 ans, parce que, non mais c'est flashback classique. Alors, les scènes de guerre sont évidemment sous la pluie, etc. Les scènes en 1920 dans la campagne sont auréolées d'une lumière absolument sublime. Et c'est du vieux cinéma, pépère, tranquille. C'est un film plutôt généreux. Je veux dire, c'est anti-guerre, c'est un film pacifiste.
Ça se passe en 1919, donc le courage est limité quand même.
Je trouve ça. Et puis Sophie Verbeck est en effet très bien.
On pourrait pas être non plus plus positif que sur le Spielberg. Faut pas exagérer non plus.
On a très peu de temps. Le collier
c'est
rouge.
Pas
c'est donc Jean Becker. Pas de réaction. Et on va terminer avec rapidement deux films. Un que j'adore, qui s'appelle The Rider.
Ça m'aurait étonné.
De la sino-américaine Chloé Zhao. Oui, mais pas uniquement à cause des chevaux.
Non.
Avec Brady, Tim et Lily Gendreau. Beaucoup plus, il faut le dire, de cul que fiction. Le film raconte l'histoire vraie de Brady, ce jeune cowboy de rodéo qui fait une terrible chute de cheval et qui a, au sens propre, le crâne écrasé. Alors, il a une plaque dans la tête. Il doit évidemment cesser de monter, mais c'est plus fort que lui, et ça, je le comprends. Il n'imagine pas vivre sans mettre ses pieds dans les étriers. Fus, et ça, on voit les scènes, en ayant des malaises et en vomissant des tripes. D'autant que sa vie de piéton, bah, elle est pas guéguée, puisque c'est dans un trou perdu du Dakota. Il y a une mère qui est morte, il y a un père qui est au chômage, il y a une sœur atteinte du syndrome d'Asperger, et il y a un voisin manchot et des copains qui sont encore plus abîmés que lui par le rodéo. Donc ça limite évidemment la perspective de bonheur. Mais je trouve que quand on sait que tout ça est vrai et que ce mec, ce Brady, a vraiment connu, subi ça, ça donne évidemment au film une ampleur assez bouleversante, Daniel.
C'est absolument magnifique. Effectivement, quand on voit au générique de fin les protagonistes et le nom en face, et ce sont les mêmes noms, et que tout ça est vécu, et que tout ça arrive à parvenir à la fiction la plus large et la plus belle, et il y a des épisodes effectivement dans le film qui sont d'une telle cruauté de la vie qu'on se dit « Oh ben ça c'est de la fiction ».
Et c'est à l'hôpital notamment.
N'est pas, voilà, ça n'est pas de la fiction. Et je trouve que ce personnage qui est vrai et qui est joué par un type qui a une tête magnifique et qui joue magnifiquement, et c'est tout le film, c'est l'histoire d'un homme en deuil de lui-même. Comment on peut accepter d'être en deuil de ce qu'on a été,
de sa passion
et de ce qui fait sa vie. Et bon, et puis les scènes, il continue, il recommence à dompter, à apprivoiser des chevaux sauvages, et c'est des scènes absolument inouïes. Voilà, c'est un film. Bon, alors on se dit que c'est un peu beaucoup. Effectivement, le voisin très très handicapé, la petite sœur autiste.
Quand on voit dès le plan la plaque dans la
tête. Et donc, crâne, effectivement, il y a un peu trop de malheur sur cet homme, mais c'est très très beau.
Oui, bon, pour moi c'est le plus beau film du programme, sauf que c'est un film vraiment lumineux, c'est ça aussi, c'est qu'il prend tout le meilleur de la... Pour moi c'est vraiment une fiction dans la forme, c'est-à-dire qu'il prend le meilleur du western, mais sans en prendre les clichés, c'est-à-dire que les clichés c'est presque... C'est les personnages, la vie des personnages passe au-delà des clichés, et il faut préciser aussi que c'est un personnage d'amérindien, qu'il a des origines indiennes, et c'est ça aussi qui est beau, c'est que c'est un personnage d'indien qui regrette de ne pas avoir cette vie de western, et cette vie que Hollywood a légendé et a ancré dans l'histoire de l'Amérique avec souvent des raccourcis. Et c'est ça qui est beau, c'est à la fois voilà le mélange fiction et documentaire, la fiction qui gagne sur le documentaire et en même temps la réalité de tout ce qui... Non, c'est vraiment un très beau film, il y a beaucoup à en dire.
Eh bien, s'il n'y a qu'un film à voir ces temps-ci, c'est celui-là, c'est absolument splendide. C'est romanesque en plus, parce que ce soit vrai, ça ajoute encore à l'émotion. Mais même au point de vue fiction, ce qui se passe, Dieu sait qu'il ne se passe pas grand-chose, sinon ce désir de remonter, de continuer. Mais la façon dont il bouge...
Tout le rapport avec les chevaux
c'est magnifique,
incroyable.
Et ses rapports avec sa sœur, ses rapports avec le copain, ça m'a rappelé des grands films de John Huston, comme ça, c'est sur des héros paumés, perdus, avec une Amérique comme ça, lyrique et en même temps étouffante. C'est magnifique. Il y a vraiment le film qu'il faut voir.
Et filmé par une sino-américaine.
Qui avait fait un film absolument splendide.
Qui était très,
déjà.
Très bien, les chansons que mes frères m'ont apprises.
Voilà, une Amérique actuelle profonde qui sans Trump et sans.
Vous avez tout dit, j'ai juste rajouté qu'effectivement, c'est un des plus beaux films de la semaine et de l'année, sans doute. Qu'elle s'est remarquablement filmée, ce corps et le corps des chevaux. Et leur... il y a une danse à un moment quand il essaye de monter sur ce cheval. Ils sont tous les deux tout seuls dans le cadre. Et il monte, et il remonte, et il redescend, et il chute. Et c'est absolument magnifique parce que tout ce qu'on ne peut pas faire comprendre, même par le mot, même par le dialogue, qui est ce fusionnel avec les chevaux, elle le filme, elle le capte, elle le restitue. Mais c'est aussi non seulement une passion, mais c'est sa manière de gagner sa vie aussi à Brady. Et il y a aussi tout un contexte économique. Tu l'as rappelé, Nicolas, les Amérindiens, quand même, qui sont dans une réserve, c'est là où elle l'a rencontré, justement.
Qui ne vivent pas des séances de rodéo qu'on voit, mais du débourrage des chevaux.
Mais du débourrage, absolument.
Comment transformer
et donc,
chevaux.
Elle arrive à ciseler tout cela, le social, la maladie, le mélo, on va dire au sens strict du terme, magnifié par une mise en scène et par un scénario qui réajuste tout cela. C'est un film absolument super.
Je suis bien d'accord avec vous. Allez voir The Rider de Chloé Zhao. Et rapidement, j'avais inscrit, j'ai pas eu raison, Carnivore, le premier film des frères Jérémy et Yannick Régnier avec Zita Enroth qui joue Sam, une vedette de cinéma dont la sœur aînée Mona, qui est jouée par Leila Bekhti, est au contraire effacée, surtout moins connue. Et Mona, voilà, rêvait d'être actrice, et quand Sam, qui a des petits problèmes, propose à Mona de devenir son assistante et d'emménager chez elle, eh bien, elle accepte. Voilà, je vais pas en dire plus, je comprends pas très bien les raisons d'être de ce film. Vous me dites assez rapidement.
C'est, j'aime beaucoup les frères Reynier comme acteurs, mais alors là, il faut, non, c'est pas leur truc pour l'instant. On dirait c'est un vieux roman de Boileau-Narcejac, qui se passerait encore dans les années 60. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de portable, il n'y a rien. Enfin, c'est inconsistant, c'est inconcevable.
C'est filmé pour la télé d'autrefois.
Oui, oui, c'est ça, mais c'est désarmant. On n'a même pas envie d'être
non,
dur.
C'est pour ça que, un mot.
Et ben moi, je ne déteste pas du tout. Je serais peut-être le seul à le défendre à cette tribune, mais absolument. Je trouve qu'il y a une ambiance. Je trouve qu'au contraire, il y a quelque chose dans la mise en scène qui est extrêmement intéressant sur la dualité des deux sœurs, sur la manière dont l'une capte tout l'espace et au moment où elle disparaît, l'autre
c'est original,
est en train de rentrer justement dans l'intimité qu'elle va, elle va prendre la place. Je trouve le film assez intéressant et le duo des deux comédiennes, Stein Roth et Léa Becti, plutôt réussi, plutôt complémentaire dans la perfidie. Et quand on sait que ces deux frères, l'un qui a connu le vedettariat très tôt et l'autre qui est resté dans l'ombre, qui ont écrit ça, c'est pas inintéressant du tout en termes de projection psychanalytique.
C'est le vrai problème aussi, c'est qu'on peut se dire qu'ils auraient pu nourrir le film de leurs expériences et l'incarner un peu plus. Je trouve que c'est un film qui manque de chair, qui fait appel à des clichés
mais
malgré son titre, et qui fait appel à beaucoup de clichés, qui se veut très film de genre avec une musique complètement décalée par rapport à ce qu'on voit. Après, la photo est très belle et très appliquée, mais alors je trouve que c'est un film qui devient de plus en plus bête au fur et à mesure qu'il avance. Et pour moi, voilà, ils se viandent totalement avec ce carnivore.
Ah, c'est pas mal.
Oh là là,
c'est sans doute préparé, mais c'est pas mal.
Non, c'est pas préparé, c'est bien.
Daniel ?
Eh ben, je rejoins Xavier. Je ne suis pas du tout... Je trouve que produit par les frères Dardenne, réalisé par les frères Reynier, c'est sur la fraternité, et là, la sororité, quelque chose d'assez... audacieux, parce que c'est pas toujours tellement épatant, et c'est assez troublant, et c'est pas si mal que ça.
Carnivore, allez-y, et après, vous pouvez écrire directement à Daniel Eman et Xavier Le Harper, le premier film des frères Reynier.
Qui n'était pas corpo.
Allez, un conseil pour terminer cette émission, Daniel.
Magnifique film de Kore-eda, The Third Murder. Le grand maître japonais des portraits d'enfance et de famille qui se lance dans le polar, mais un polar intimiste, tête à tête incertain d'un avocat qui veut défendre un criminel et le criminel qui ne veut pas être défendu. Et c'est absolument magnifique. The Third Murder.
Nicolas.
Moi, le film d'un jeune cinéaste français qui s'appelle Vladimir de Fontenay, qui a tourné à la frontière entre le Canada et les États-Unis, un film qui s'appelle Mobile Homes, qui est un film vraiment dans un cadre de cinéma indépendant américain qui a de plus en plus de mal à exister. Et alors, c'est l'histoire d'un jeune couple avec un enfant de 8 ans qui vit de menu trafic et qui passe de mobile home en mobile home. C'est vraiment une chronique de la démerde et un peu des décès pour compte, mais avec une énergie et un talent de mise en scène, je trouve, une actrice formidable qui s'appelle Imogen Poots, qu'on a vu entre autres dans Broadway Therapy. Et dans comme ça quelques films que vous avez dû sûrement identifier. C'est un film, un premier short film, je crois, ou deuxième, vraiment assez remarquable.
Mon conseil, malheureusement, ça n'est que pour les Parisiens. C'est demain, 9 avril, la projection au Ciné-Club animée par Olivier Barrault au Poche Montparnasse, d'une rareté, derrière la façade d'Yves Mirande et Georges Lacombe, qui est un polar de 1939, avec, tenez-vous bien, Michel Simon, Gaby Morlaix, Jules Berry, Elvire Popesco, Eric von Stroheim, Marguerite Moreno, Julien Carrette, Simone Berriot, j'en oublie. Et en plus, comme toujours dans le ciné-club de Barrault, en première partie, il y a les réclames de 1939. Donc franchement, si vous êtes dans le coin, c'est-à-dire à Paris ou autour, allez donc demain, 9 avril, assister à la projection de Derrière la façade. Le conseil de Xavier.
C'est un film cubain qui s'appelle Candelaria de Jenny Hendrix Inés Rosa. C'est l'histoire d'un couple à La Havane dans les années 90. Ils ont 70 ans, anciens danseurs artistes. Ils trouvent inopinément une caméra vidéo. Ils vont filmer leur nuit. Et ces vidéos coquines qui vont devenir un gros succès dans le marché noir. C'est pas coquin, mais ils filment leurs ébats. Ça devient un gros succès au marché noir. Et c'est la manière dont, effectivement, une petite révolution sexuelle va fissurer la grande révolution socialiste. C'est savoureux, c'est drôle, c'est léger, c'est musical. C'est vraiment un film extrêmement malin, joli, empathique, tout ce dont on a besoin.
Et on termine avec le conseil de Pierre.
Un documentaire de Stéphane Mercurio qui s'appelle Après l'ombre. C'est une cinéaste qui avait déjà s'était intéressée aux prisonniers, aux femmes de prisonniers en visite qui s'appelait À côté il y a quelques années. Et là, elle filme une répétition de théâtre où il y a quatre qui sont sortis de prison mais qui ont commis des longues peines, enfin, qui ont été condamnés à de longues peines et une femme qui a, et elle les filme en train de se raconter. C'est absolument bouleversant et c'est vraiment sur les choses horribles qui peuvent se passer et ça ne justifie pas absolument les actes des criminels, on n'en parle même pas, mais c'est juste l'humanité et c'est absolument formidable. Ça s'appelle Après l'ombre.
Tous ces conseils très variés, vous les retrouvez évidemment sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Daniel Lehmann, Nicolas Chalère, Pierre Murat et Xavier Le Herpeur pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam ce soir au Charles Trenet. À la technique, et je les remercie, Philippe Mercher, Jean-Benoît Tétu et Lucas Vaillant. La réalisation était signée Didier Lagarde. Et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque aura lieu le vendredi, je dis bien le vendredi 20 avril, à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de la Radio pour deux émissions, l'une consacrée au cinéma et l'autre au théâtre. Et on parle de livres la semaine prochaine. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter. Évidemment.